Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard Affût pour ce nouveau numéro et nous allons aller en terre paloise, Arnaud. Comment ça va ?
Très bien, merci Raph de m'accueillir encore pour ce nouvel opus de Poulard Affût. Hein, Poulard Affût, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter maintenant notre invité du jour.
Oui, Arnaud, on a tous des parcours particuliers, des vies non linéaires, faites de moments glorieux, de moments compliqués, des remises en question et des pertes aussi parfois qui font grandir souvent un grand coup de claque. En tout cas, je vais parler pour ma part. Et puis, il y a des parcours un peu plus atypiques encore, qui sortent un peu plus de la norme et qui inspirent et qui poussent à l'audace de croire que tout est possible et ça fait du bien. Alors, quand tu écoutes le parcours de Martin Pech, tu te dis que tout est possible. Originaire de Cahors, formé à la Jeunesse Sportive Gramatoise, puis à Saint-Cérès-Bretenoux. J'ai l'impression de parler de Beauvais et de tous ces petits villages qu'il y a autour de Blagnac, puis à Colomiers, qu'il découvre le rugby pro. Alors, pourquoi atypique, me diriez-vous, mis à part le nom de ces clubs qui fleurent bon l'Ovalie? Eh bien, parce que Martin Pièce, ben, il n'a pas grandi rugbystiquement parlant dans un centre de formation et fait pourtant une super carrière, ce qui donne espoir à bien des profils dans tous nos clubs amateurs. Atypique parce que meilleur plaqueur du top 14 avec 293 plaquages, ça c'était en 2020, en 16 matchs. Rendez-vous compte, j'ai dû plaquer 100 types tout au long de mes 70 matchs en pro en 7 ans de carrière. C'est vous dire la rudesse du type. Et atypique parce que titulaire d'une licence de biologie cellulaire et physiologie, on va bien sûr en parler, diplômé de la Toulouse Business School et encore en course pour obtenir le plus de diplômes possible pour un rugbyman en activité avec un cursus type master école de commerce, toujours plus. Bref, avec mon CAP de PlayStation, mon doc de bringue et mon doctorat en sciences de la connerie, je fais pas le figure face à ce palois d'adoption. Eh bien, bienvenue Martin Puech dans Poulain Rafut, salut.
Bonjour tout le monde et ravi de participer à cette émission.
Merci.
J'ai un profil de génie des études, mais c'est un peu flatteur, mais je ne suis pas sûr d'être complètement, correspondre complètement à ça.
Bah, en tout cas, sur le CV, ça a de la, oui, ça a de la gueule. Tu vois, on va justement en parler, puisqu'on aime parler justement de reconversion, du fameux double projet pour inspirer aussi la nouvelle génération qui arrive. Donc, quand même, on va rentrer dans le vif du sujet avec Arnaud, mais on va parler de tout ça, ouais.
Alors ouais, justement, avant d'évoquer un peu cette thématique, la section a conclu sa saison le week-end dernier, Martin. La section a donc terminé dixième de la phase régulière. Pour parler un peu sportif, est-ce que c'est une déception cette dixième place, Martin ?
Non, je pense pas. Faut être assez humble et assez observateur. Quand on voit les équipes qui sont 9e, 8e, qui ont raté le top 6, mais qui sont devant nous, on n'a pas à rougir, surtout en termes de budget, en termes d'effectifs. Le top 14, c'est quand même un championnat très difficile. L'année dernière, on sort d'une saison où on a frôlé la relégation. On était 12e la saison dernière, 10e cette saison, ça progresse. C'est un petit peu dommage parce que La défaite au Stade français, avant cette défaite, on pouvait peut-être espérer quelque chose, mais en termes de victoire-défaite, on n'est pas si loin que ça. C'est juste les bonus qui nous coûtent cher, je pense.
Justement, Martin, parce que c'est vrai que Pau, quand même, depuis quelques années, nourrit de nouvelles ambitions, s'est installé quand même durablement en top 14, possède un budget relativement confortable. Qu'est-ce qui manque finalement aujourd'hui pour franchir ce cut et se mêler à la lutte avec les cadors de ce top 14?
Bah, pas grand-chose, je pense qu'on est, comme l'a répété très souvent cette saison notre manager, Sébastien Piccheroni, on est en construction, c'est-à-dire qu'il est arrivé l'année dernière, il y a 2 ans, mais juste à la fin, et il est là pour construire quelque chose, et on ne construit pas un groupe et une équipe en une saison, donc on a mis les fondations cette année, et je suis convaincu que dans son projet, dans ses idées, ça va, les années qui vont suivre vont se développer et on va s'améliorer, on va grimper au classement.
Alors justement, après on va échanger avec Raphaël, tu parles de l'arrivée de Sébastien Piccheroni. On a vraiment le sentiment que son arrivée a marqué un tournant hein, dans la structuration du club. Souvent, on a des présidents quand même qui sont très impatients, qui veulent des résultats tout de suite. Là, on a le sentiment que Sébastien, on va lui laisser du temps. Est-ce que c'est ton sentiment et est-ce qu'il faut être patient finalement?
Oui, mais je pense que Bernard Pontenot, le président, c'est son projet aussi. Enfin, s'il a choisi Sébastien Piccheroni qui entraînait les moins de 20, c'est aussi parce qu'il avait un projet sur long terme en sachant qu'il était attractif pour des jeunes, des futurs talents. Forcément, quand tu mises un peu sur ça, tu te doutes que tu ne vas pas exploser en une saison. Donc, si tu mises un peu sur les jeunes, il faut le temps qu'ils mûrissent et qu'ils explosent en top 14. C'est une stratégie qui est, sur le court terme, je ne pense pas, mais qui peut au bout de une ou deux, trois saisons, voir le jour et proposer des choses intéressantes pour Pau.
Justement, c'est une question que j'aimerais vous poser à tous les deux. Vous avez des carrières très différentes et à des époques très différentes, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose d'assez significatif dans le rugby professionnel aujourd'hui, ce manque de patience parfois de certains présidents, cette volonté d'avoir des résultats très, très immédiats?
Moi, je peux comprendre aussi les présidents, ils mettent de l'argent, et ils s'investissent personnellement. Je peux comprendre qu'ils veulent les résultats au plus vite. Après peut-être que... Ça dépend des individus, mais je peux comprendre les deux points de vue, quoi. Si tu mets beaucoup d'argent en recrutant des stars, je comprends que tu veux des résultats rapidement, quoi, comme le Stade français, mais
ça marche pas trop. Qu'est-ce que ça fait d'avoir été en concurrence avec le plus gros budget du top 14
Ah ouais, après, le Stade français, des fois ça va bien, des fois ça va pas, mais ils sont capables de tout, donc cette année, ça... Ça n'a pas marché, mais l'année prochaine, ça se trouve, ils seront dans le top 2. Donc, ouais, c'est pas une science exacte. Hein, malheureusement, c'est assez compliqué.
Après, ça fait quelques années, ils bouffent un peu le pain noir voilà, d'une période. Mais on en a déjà assez parlé, déjà dans Poulain Raffut. Moi, pour répondre à ta question, Arnaud, je pense que oui, il y a des. Enfin, comme le dit Martin, ils mettent quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oseille, quoi. Donc, on a discuté justement avec Alex Flancard il n'y a pas très longtemps à Aix. Voilà, ils étaient sur une belle lancée et en fait, voilà, il y a beaucoup de changements. Il y a eu 20 départs, je pense, à Aix d'ici à l'année prochaine. Donc, ouais. C'est vrai qu'il y a une volonté d'avoir des résultats, mais ça se construit. De passer d'un groupe à une équipe, ça prend du temps, comme le fait justement Piccheroni à Pau et intelligemment. Mais c'est vrai qu'il y a certains présidents qui ont besoin aussi d'avoir des résultats. Je pense justement, on va reparler du Stade français, hein, le mec a quand même foutu, je ne sais pas, 60 ou 70 millions d'euros depuis son arrivée. Quoi.
100 millions en 5 ans.
Toujours plus. Ouais. Voilà. Donc bon, hein, ça paye les clubs, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que les résultats ne tiennent pas. Donc lui, en termes d'impatience, oui. Après, tu regardes tous les mécènes, même à Nevers ou ailleurs, les mecs, les présidents sont quand même, prennent le temps de structurer quand même leur projet. Quoi. Alors, pour Arnaud, dis-nous à qui tu penses justement sur ceux qui seraient impatients justement dans le rugby français. Parce que les mecs.
Bon, il y en a beaucoup. Bernard Lemaître a très envie de gagner rapidement. Jackie Lorenzetti, quand il est arrivé, a eu très envie de gagner très rapidement. Mourad Boudjelal, et il a eu cette réussite avec le RCT. On a le sentiment que des entraîneurs qui s'installent dans la durée, aujourd'hui, il y en a finalement assez peu dans les clubs. Non, c'est pas votre sentiment?
Mais si, j'ose faire une comparaison avec le football. Tu vois le PSG, Manchester City, ils ont des mécènes, des Qataris, des Saoudiens, et la Ligue des Champions, ils la gagnent pas, quoi. Et pourtant, ils ont les meilleurs joueurs du monde. Tu compares avec le rugby, qui gagne la Coupe d'Europe, c'est des clubs Toulouse, des clubs historiques, et La Rochelle qui est quand même qui a une histoire un peu plus, qui a raté quelques finales, mais qui s'est construit un peu plus sur la durée. Il y a l'argent, mais il y a aussi, je pense, que l'histoire du club, et c'est difficile à expliquer, mais c'est pas pour ça que c'est dur de gagner rapidement. Quoi.
Tu cites deux clubs, Martin, qui justement se sont construits dans la stabilité. La Rochelle et Toulouse.
Oui, bien sûr. Ouais. Donc, ouais, mais ça prend plus de temps.
Quoi. Ouais. Mais alors justement, Martin, parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que tu as pris du poids à la section paloise, de l'épaisseur un peu dans le vestiaire. J'ai retrouvé quelques déclarations, notamment de Sébastien Piccheroni. Tu as même été capitaine à plusieurs reprises. Si tu devais passer un message justement pour placer le curseur pour la saison prochaine, ce serait lequel, Martin?
Bah, ça serait un message de continuité. On est en train de structurer un jeu, une façon de jouer, un effectif, une mentalité. Et pour créer et continuer une identité, il faut de la continuité, je pense. Donc ça, je pense que l'entraîneur l'a compris. Il sélectionne des joueurs intelligents, je pense. Tout est calculé avec lui, donc je parle pas de moi, hein, je parle de l'effectif en général, mais je pense que c'est un tout et c'est une alchimie qui est dure à mettre en place, mais c'est la continuité, quoi. Il faut continuer comme ça et garder le même cap, quoi.
On va parler un peu de toi, Martin, parce que tu fais partie un peu de ces joueurs qui n'ont pas eu un parcours très classique, hein, pour un rugbyman professionnel. D'abord, pour m'être documenté, est-ce que finalement c'était réellement un rêve pour toi que de devenir joueur professionnel?
Ben, c'était un rêve, mais c'était pas un rêve assumé, quoi. C'était ouais, j'aimerais bien, mais j'ai dans mon entourage ou l'endroit où j'ai grandi, j'étais pas prédestiné à être un joueur professionnel. Non, j'aurais aimé l'être. C'était un rêve caché, mais j'y croyais pas vraiment. Non.
D'accord.
À quel moment il y a eu le déclic, justement, où tu t'es rendu compte qu'en fait, ouais, ce serait possible? C'est la...
Ben, le déclic, c'est quand j'étais à Périgueux, hein, j'ai joué à Périgueux parce que je faisais un IUT de bio là-bas, et je suis parti à Toulouse à la fac de bio, et j'ai joué à Blagnac en Réchelle A, et Colomiers m'a... On a joué Colomiers-Blagnac en Réchelle, et j'ai fait un plutôt bon match, et l'année d'après, je suis parti en espoir à Colomiers. Et ma première année espoir en Colomiers, c'était Nicolas Allinger et Chambriard, les entraîneurs.
Et Chambriard, mon Dieu.
Chambriard. Et j'étais en espoir, mais j'étais même pas conventionné, j'étais juste un espoir lambda, quoi. Et Allinger et Chambriard m'ont remarqué, m'ont fait commencer un ou deux matchs en pro. Et c'est là que je me suis dit pourquoi pas essayer, quoi. Ouais.
Mais alors, justement, vas-y, termine, pardon.
Et du coup, les études ont pris un petit coup dans l'aile à ce moment-là, quoi. Ça a ralenti un petit peu tout, quoi.
Mais alors, justement, pas de centre de formation, pas de sélection nationale chez les jeunes. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Donc, voilà, de Blagnac, Colomiers, et puis finalement, l'ascension démarre du côté de la Colombe.
Ouais, ben en fait, moi, j'ai grandi dans le Lot, à Gramma, à côté de Rocamadour. Je sais pas si vous voyez.
Beaucoup de rue de Biatresse par là. Je crois que c'est par le 13, d'ailleurs.
Ben, je suis une famille de trésistes. Mon père et mes oncles sont tous trésistes. Ouais. Ils sont d'Albi.
Alors, c'est ce qui explique joueur, peut-être donc. Le côté plaqueur aussi.
Oui, ouais, plaqueur, et peut-être plaqueur un peu haut aussi, mais ça, c'est... c'est un problème que... Je sais pas si c'est un problème, mais ça dérange certaines personnes, les arbitres. Et du coup, j'ai grandi dans le Lot. J'ai joué à Gramma, forcément. Et après, je suis parti à Saint-Céré pour le lycée. Et c'est à Saint-Céré, d'ailleurs, j'ai fait une rencontre que Raphaël doit connaître. J'ai joué avec Quentin Mouton.
Oh la vache.
Le frère, t'as joué avec son frère, je crois, à Beauvais.
Avec Mout, ouais. Avec Mout, ouais. Nom de Dieu. Mout, c'était pas long.
Il me parlait souvent de toi, Raph, de Beauvais.
Ouais. Ouais. On a un peu le même parcours, toi et moi. Hein. Enfin, tu vois, pas prédestiné à être rugbyman professionnel. Ouais. Voilà, donc, et puis, vas-y, je te laisse continuer. Mais oui, Mout,
Quentin Mouton. Et après, forcément, avec les études, je me suis retrouvé à Toulouse, où je vais expliquer, j'ai signé à... Enfin, j'ai commencé en espoir à Colomiers, je commençais à faire quelques matchs. Colomiers descend en Fédéral 1. Fédéral 1, c'est Bernard. C'est Broncan qui arrive entraîneur à Colomiers avec Olivier Baragnon, qui m'avait en espoir. Du coup, j'avais un petit peu d'espoir de jouer en Fédéral 1, sauf que match amical contre Aurillac, je me pète le genou. Croisé. Du coup, la saison où j'espérais jouer un petit peu en Fédéral 1, quasiment foutu pour moi. Donc là, je lâche un petit peu, je n'ai plus trop d'entraînement, je fais un petit peu la fête, les nuits toulousaines étaient plutôt intéressantes. Et je reviens en fin de saison, le club, je fais un match ou deux en réserve. D'ailleurs, je suis champion de France réserve fédérale. C'était Colomiers contre Bobigny, on gagne. Et là, le club monte en Pro D2 et Broncan, ça va à Tarbes et Colomiers recrute Gouta. Et garde Olivier Baragnon. Et Olivier Baragnon, qui me connaissait bien, me dit je sais ce que tu vaux, j'ai confiance en toi, mais je peux pas te faire signer un contrat pro, je vais te faire signer un contrat amateur. Donc, un contrat amateur, c'est que tu as le droit à faire 3 matchs, et après, soit tu signes pro, soit tu dégages, quoi. Et donc, la prépa, la,
à,
la
à quel
prépa
âge comment... ça à quel âge
avant, c'était,
à ce moment-là
ça, j'ai 21, 22. Je ne suis pas tout jeune, hein, je suis ouais. 21 ans. Et du coup, on fait la préparation, je fais les matchs amicaux, et là, je fais les trois premiers matchs du championnat, et je signe le premier contrat pro à Colomiec.
Génial. Comme, ça ne joue à rien, en fait.
Ouais, ça ne joue à rien. Ouais. C'est une histoire de chance, une histoire de confiance d'un entraîneur qui m'aimait bien et qui m'a donné ma chance. Quoi. Ça peut passer à côté. Quoi. Ouais.
Mais est-ce que tu as le sentiment que ça relève presque du miracle? Parce que imaginons que sur ces trois matchs-là, ça arrive hein, de passer à travers. Tu ne deviens jamais professionnel, peut-être.
Ouais, c'est fort possible. Après, moi, je n'avais aucune pression parce que dans ma tête, je m'étais dit, j'ai rien à perdre. Quoi. Soit je montre ce que je vaux et ils me gardent, soit je continue le chemin que j'avais imaginé dans ma tête. Donc, je n'avais pas grand-chose à perdre.
C'était le cas, genre, tu t'imaginais quoi? Les études, justement, parce qu'on a parlé de ton cursus dans l'introduction, on va en parler après.
À l'époque, j'étais en fac de bio, quoi, donc je ne savais pas trop vraiment quoi faire. Mon objectif, c'était être diplômé, avoir un minimum de bagages, après, peut-être via le rugby, un moindre niveau, trouver un petit truc. Mais je n'avais pas de plan bien établi. Mmh.
Ouais. Mais bon, aujourd'hui, voilà, tu es un cadre de la section paloise, ça fait 5 ans, hein, si je ne dis pas de bêtises, qu'aujourd'hui
ouais,
tu es…
5 ans, c'est ma 5e voilà, année.
Que tu es à Pau. Est-ce que tu as le sentiment que ton parcours, ce n'est pas finalement aussi un bon signal envoyé à tous ceux qui se font recaler des centres de formation c'est-à-dire qu'en gros, à force de travail, on peut quand même y arriver. Gabin Villière, par exemple, dernièrement, a prouvé qu'on pouvait même atteindre le 15 de France hein, en ayant été recalé de tous les centres de formation. Est-ce que ce n'est pas un bon message finalement envoyé à tous les joueurs? Et Fabien Galthié le répète assez souvent qu'il y a parfois des ovnis, comme il dit, des pépites qui gravitent finalement dans les clubs de National, de Fédéral 1 et qui, peut-être sur un coup de dé, comme tu as pu l'avoir à Colomiers, peuvent prétendre à autre chose.
Ah, mais ouais, mais des profils comme ça, il y en a beaucoup. Il y a Gabin Villière, il y a Boutier un peu qui a un peu ce parcours, il y a Ratel aussi qui avait été. J'ai joué contre lui en Pro D2. Ouais, c'est. Mais il y a quelque chose qui a un peu changé actuellement, c'est-à-dire c'est la visibilité de la Pro D2 et également de la Nationale et de la Nationale 2. Enfin, ça crée des divisions plus sérieuses où tu es un joueur d'espoir moyen à ce moment-là, tu peux rebondir à Nationale et évoluer, être remonté ultérieurement en Pro D2 au top 14. Donc, ouais, le rugby a changé. À l'époque, c'était un peu plus difficile, mais maintenant, ouais, pour les jeunes, c'est beaucoup plus facile d'éclore, je trouve.
Sauf qu'il y a eu pour avoir vu un petit peu toute la génération qui est passée, là, il y a beaucoup, beaucoup qui n'ont pas percé et qui ont même arrêté le rugby, justement, parce que pas pris dans les centres de formation, parce que pas franchi le cap de la taille, du poids, et qui ont complètement arrêté le rugby. Et il y a eu un gros gâchis, quand même, d'où la perte des licenciés aussi pendant quelques années. Le blason du rugby s'est redoré avec l'équipe de France, avec ce top 14 attractif. Mais c'est vrai que ces parcours, en fait, atypiques, c'est important de les mettre en avant parce que ça permet, en fait, aussi aux jeunes dans les petits villages, en fait, et les petites villes, en fait, de s'identifier à autre chose que ce cursus qui est hyper normé, hyper... pas déresponsabilisant, mais de passer par les centres de formation qui t'amènent justement pour l'espoir, qui t'amènent justement à devenir professionnel. Je trouve qu'il y a eu un gros gâchis en fait et une perte de potentiel. Et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont arrêté le rugby pour avoir été témoin de tout ça. Ouais. C'est d'où l'importance de ton témoignage en fait.
Ah, c'est gentil, que bah, ça me fait plaisir.
Et justement, Martin, eu d'égard à ton parcours, est-ce que parfois tu as le sentiment d'être en décalage dans un vestiaire par rapport à ces joueurs qui ont connu un parcours entre guillemets classique, centre de formation, les premiers matchs en pro, contrat pro, des mecs qui ont des agents à l'âge de 16 ans. Est-ce que tu as le sentiment d'être un peu en décalage parfois?
Ça change un petit peu, ça se footballise un peu, je trouve. Les jeunes, ils rentrent tôt maintenant, quoi. Ils rentrent à 16 ans, ils sont en centre de formation. Moi, quand j'ai commencé, la plupart des mecs étaient un peu comme moi. Enfin, pas tous, mais une grande partie étaient un peu comme moi, avec des parcours atypiques. Là, c'est vrai que maintenant, c'est plutôt formaté. Et, je trouve que c'est un peu dommage, parce que les jeunes s'intéressent. Ils sont dans des tunnels, quoi. Ils ont le rugby, leur agent, le salaire, qui est plutôt à leur âge, qui est plutôt confortable. Donc, parfois, je trouve qu'ils ont un peu de mal à se rendre compte de la réalité, quoi.
Ouais. J'ai retrouvé une déclaration que tu as faite dans les colonnes de Midi Olympique. Tu dis, quand j'ai commencé à Colomiers, il y avait beaucoup d'étudiants et souvent, nous avions des débats politiques, sociétaux le midi. Aujourd'hui, nous devons faire avec une nouvelle génération qui s'est essentiellement concentrée sur le rugby. On commence à se rapprocher du football. Alors, j'essaye parfois de déplacer un peu le débat. Est-ce que tu y arrives?
J'y arrive, mais j'essaie de le faire sous le ton de la plaisanterie parce que et de la moquerie un petit peu, quoi, mais en restant bienveillant quand même, toujours. Mais c'est vrai que maintenant, c'est rugby, c'est réseaux sociaux et les nanas, quoi.
C'est vrai, alors à un âge où après, tu as ce qui est normal à 19-20 ans, mais tu en as vite fait le tour, en fait. Et puis, il y a le syndrome de vite fait de passer pour un vieux con, et pourtant, tu n'es pas vieux, hein, mais tu vois, c'est important aussi de faire passer aussi des messages, l'importance du double projet, l'importance de se pencher sur d'autres activités que le rugby. Ben voilà, il y a une richesse. Le problème, c'est comme tu dis, ils sont dans des tunnels, et puis c'est un peu, peut-être un petit peu triste, quoi.
Ouais, mais moi, je l'assume complètement, le côté vieux con, ça ne me dérange pas. Un peu. je suis content d'être considéré comme ça. Ouais. Après, plus cette année, c'était l'année des élections présidentielles, quoi. Il y avait pas mal de sujets abordés. Des fois, tu débarques le matin au petit déjeuner, tu lances la discussion. Ah, mais c'est qui lui? Ah, je connais pas. Bon, c'est assez drôle parfois, mais je me moque d'eux, quoi.
Mais alors, c'est marrant parce que je disais, c'était Bernard Gouta qui disait ça à ton propos. Il disait que une fois qu'il a eu compris qui tu étais, parce que il disait que la première fois qu'il t'avait vu, pour reprendre son expression, il disait il avait un corps dégueulasse, mais j'ai compris comment il s'était construit. Et il dit il a besoin d'autre chose que du rugby. Il a besoin d'aller chercher d'autres sujets, d'autres activités pour être performant sur le terrain. C'est ton sentiment, Martin?
Ouais, après, j'admets quand même que le rugby, c'est une grande partie de ma vie. Quand je rentre chez moi, je regarde les matchs, ça m'intéresse. Mais au quotidien, ouais, j'aime bien. J'adore regarder les débats politiques. Je passe mon temps sur les chaînes d'infos. C'est peut-être pas forcément bien, mais. Déjà quand je rentre chez moi, ma compagne elle comprend rien au rugby, donc elle me parle pas de ça, quoi. Ça l'intéresse pas du tout. Je m'échappe déjà avec ça, donc ouais, mais c'est j'ai besoin de ça. Après c'est comme un loisir pour moi de faire ça. C'est pas contraignant, quoi.
Est-ce que tu as le sentiment que si tu étais 100% rugby, totalement focus, tu serais meilleur, ou au contraire est-ce que tu es meilleur parce que tu as cette ouverture d'esprit qui te permet peut-être d'être plus libéré sur un terrain, je ne sais pas.
Ouais, après, j'y réfléchis parfois. Est-ce que si j'étais plus concentré rugby, plus sérieux, faire attention à ce que je mange, faire plus de... Je pense pas. Je pense que c'est trop tard maintenant de changer comme je suis, de son. Et ça, non, je pense que je suis bien comme je suis, quoi. Je suis bien dans ma tête et dans mon corps. Pour faire du rugby, je suis bien comme je suis. Ouais.
On va parler un petit peu de Fabien Galthié, qui est un lotois comme toi, parce que Fabien Galthié, il dit souvent que dans l'équilibre d'un groupe, on a besoin de joueurs au parcours de vie un peu différent. Il dit que ces joueurs-là sont précieux parce qu'ils apportent justement un éclairage, un regard différent. Tu comprends ce sentiment et est-ce que tu le partages?
Ouais, difficile de le comprendre parce que moi, j'ai jamais été dans l'ordre de manager, donc je pense que le manager, il fait attention à ce genre de choses-là. Moi, je peux le comprendre parce que ça amène de la diversité, de la discussion et forcément quand tu discutes, tu crées des liens et quand avec les autres personnes et quand tu crées des liens, ça améliore les performances. Donc d'un point de vue de management, ouais, je pense que c'est important. Après, de mon point de vue, moi, c'est tellement naturel, je ne fais pas attention. Donc ouais, mais je peux comprendre dans un groupe que certaines personnes comme ça sont importantes.
Raph, à ton époque, ça fonctionnait un peu comme ça, non? Il y avait beaucoup, il n'y avait pas que le rugby quand. À l'époque du Stade français, à l'époque de Max Guazzini?
Pas que le rugby, mais il y avait les pom-pom girls et pas grand-chose aussi à côté, quoi. Il n'y avait pas, j'ai jamais vu Rémi Martin dans un musée ou Jérôme Fiol aller sur les quais pour aller flâner, quoi. Donc, non, on était quand même vachement axé rugby. Après, c'était une autre, comme le dit Martin, c'est une autre époque. Les mecs faisaient un petit peu d'études aussi, mais très peu. Enfin, si, il y a eu Pierre, Lascrelle, voilà. Enfin, la diversité, je dirais, des caractères dans un club permet en fait d'avoir, une fois de plus, c'est comme en société, tu as des introvertis, des extravertis, tu as de tout. C'est l'allégorie du bus que je reprends assez souvent, les introvertis au début, qui ferment leur gueule, et puis ceux qui sont au fond, les petits cons. Et il faut tout, sinon tu te fais chier, sinon tu veux des soldats. On l'a vu, l'échec d'Heineken Meyer, c'est de vouloir des soldats au sein du Stade français, et ça n'a pas marché. Mais ça se dit au Stade français, mais partout, dans tous les clubs. Tu as besoin d'avoir des papas, tu as besoin d'avoir des jeunes qui viennent foutre un peu la merde, tu as besoin d'avoir la raison qui emmerde les anciens et la passion des jeunes qui émulsionne et qui remet un petit peu la hiérarchie en question. Et c'est la complexité justement du manager d'arriver à tirer les ficelles pour qu'il y ait une espèce d'harmonie où tout le monde va dans le même sens. Donc, il faut des caractères, il faut des papas, il faut du, voilà, il faut de tout, en fait, pour qu'un club fonctionne bien et au moins que tu en sortes avec des souvenirs. Hein, sinon, tu te fais chier. Et comme le disait Benjamin Kaiser, hein, on n'a pas le temps d'impacter sur la victoire, il faut penser au match d'après. Et ça devient un boulot, et ça devient chronophage, et ça devient comme à l'usine. Donc, non, il faut se marrer, il faut des trucs à côté. Et c'est important, c'est la vie de groupe, quoi.
Tu partages, Martin ?
Totalement, ouais. Ouais. La vie de groupe, elle ne se perd pas, quand même. Les après-matchs, ils sont bien fêtés. En tout cas, à Pau, c'est...
Mais on le voit aussi à Toulouse et tout. On dit toujours, ouais, la génération des jeunes aujourd'hui, tu vois, comme tu le disais, tu vois, elle est vachement réseaux sociaux. Bon, après, on peut la critiquer parce qu'on n'a pas été élevé là-dedans. Mais on sent que la bringue, oui, elle se fait peut-être plus en boîte. Elle se fait plus dans des lieux justement ouverts parce qu'il y a aussi des réseaux sociaux. Mais elle se fait dans les vestiaires. Elle se fait aussi avec les supporters autour, avec la buvette. Enfin, ça existe encore et tant mieux, parce que si ça n'existe plus, les gars, il faut arrêter. Il faut passer à autre chose. Hein. C'est... Troisième mi-temps est essentiel.
Ouais. Elle est toujours là.
Ouais, cool.
Bon, la transition troisième mi-temps et reconversion, elle n'est pas simple. On va essayer de la faire quand même. On va parler un peu justement de ton parcours universitaire, Martin, parce que tu es titulaire. Donc, Raphaël l'a rappelé, d'une licence de biologie cellulaire et physiologie. Tu es également diplômé de la Toulouse Business School. Et aujourd'hui, tu prépares donc un master's en marketing, c'est bien ça, à l'ESCPO. Voilà, avec notamment, je crois qu'il y a Luc Carré, il y a Antoine Astoy, il y a Thibaut Dobagna qui suivent le même parcours que toi. D'abord, pourquoi ce choix de continuer à te diplômer, Martin ?
Bah justement, parce que peut-être que je viens d'un parcours différent et je suis complètement conscient que le rugby, ça dure un temps, 10-15 ans, et après, retour à la vie normale. Donc, des salaires différents, d'un train de vie différent, et la vie normale, il faut un bagage de diplôme, surtout en France, pour vouloir travailler, un travail plutôt confortable. Donc, c'est nécessaire de continuer. Et on a la chance avec le rugby d'avoir des avantages pour se former. Donc, il faut vraiment en profiter. Et quand le rugby s'arrête, au moins, t'es prêt et tu peux encaisser ce qui arrive.
Est-ce que c'est la lucidité que tu as ? Est-ce que c'est une question d'éducation, d'ouverture, ou c'est ton caractère ?
Il y a un peu l'éducation. Ouais. Après, mes parents... Après, comme je n'étais pas prédestiné à faire ça, ils m'ont toujours dit que les études, c'est important. Après, il y a aussi une question d'âge aussi. Quand la fin approche, quoi, quand tu passes les 30 ans, forcément, il faut y réfléchir. En plus, moi, je suis de nature un peu frileux. Quoi. J'ai toujours peur de la grosse blessure qui te fait tout arrêter. Il faut vite rebondir. Donc, ouais, c'est un tout. C'est un tout, mais je suis très prudent. Alors, je préfère voir venir que tout arrive dessous d'un coup et être dépourvu. Quoi.
Est-ce que du coup, tu as déjà anticipé ce projet de reconversion, Martin ? Tu y réfléchis ? Tu sais vers quoi tu veux te diriger ?
Ben, mon plan, c'est d'avoir le plus de diplômes à mon actif. Et après, un peu, moi, c'est particulier parce que ma compagne est irlandaise. Et du coup, il y a de grandes
chances... Et elle ne connaît pas le rugby en étant irlandaise ?
Non, c'est un cas à part. Et du coup, il y a de grandes chances que après ma carrière en France, je parte au Royaume-Uni, Irlande ou possiblement aux États-Unis. Donc, pour ça, je préfère me diplômer le plus possible. Et une fois que je serai là-bas, tenter l'aventure, on verra bien. Quoi.
Et est-ce qu'en bon français, tes bases d'anglais sont comme les miennes et comme beaucoup de français, Where is Brian ? Est-ce que tu as quand même fait évoluer un peu le bordel pour arriver là-bas avec 3 ou 4 mots un peu plus...
Je comprends parfaitement, mais je parle, mais je préfère garder mon accent français. Quoi. C'est naturel. Quoi.
Ça doit être beau, cet accent du Lot avec anglais, ça doit être très,
ouais,
très
c'est du, pas mal. Ouais. C'est un mélange de François Hollande qui parle anglais. C'est pas mal. Quoi.
Il fait le modeste, mais je me suis laissé dire par un de mes confrères de la République des Pyrénées, Greg Lothor, qui est un bon copain et qu'on salue au passage, que tu étais parfaitement bilingue. Hein.
Oui, bilingue. Je me débrouille, je me débrouille. Si tu me lâches à Londres, je survis.
Bon. Toujours dans cette idée de reconversion, est-ce que tu penses que ton parcours atypique construit plus ou moins dans la difficulté quand même, parce que tu rappelais ces épisodes de blessures sans l'assurance donc de pouvoir vivre de ta passion au départ. Est-ce que ça fait de toi justement ce joueur aujourd'hui qui a le recul nécessaire sur les choses pour mieux appréhender la suite ?
Ouais, je pense. Ouais. Je pense que le fait d'avoir frôlé le d'avoir frôlé le fait de jamais jouer au rugby professionnellement, ça m'a plombé pour toute ma carrière, quoi. Que ça soit dans mes négociations de contrat, dans mes choix de club, ouais, j'ai toujours eu en tête le fait que ça peut s'arrêter très très vite. Et pour ça que je suis pas forcément le meilleur en négociation ou le meilleur pour gérer mes côtés financiers, mais je sais d'où je viens, je sais ce que c'est le salaire par exemple d'une personne lambda qui d'un cadre même supérieur. C'est pas, on est dans le rugby, on est plutôt gâté par ça. Donc ouais, mon parcours m'a quand même influencé toute ma carrière.
Ça t'a sensibilisé.
T'es lucide, ouais. Quand même sur le parcours. Est-ce qu'il y a déjà eu une grosse blessure aussi qui t'a fait douter?
Ouais, moi je me suis cassé le genou deux fois.
Ouais.
Et le bras deux fois. Ouais.
Et le nez, non?
Le nez, non, c'est je suis né comme ça, quoi.
Il parle le nez. Le nez, il paraît que c'est un running gag.
Le nez, c'est la première fois, c'est un pilier de Massy qui me le pète, hein, peut-être, mais volontaire, quoi. Et la deuxième fois, c'est match que Colomier, Albi Colomier, Yugan, Correa, vous voyez, le second ligne.
Ah oui.
Ouais.
Ouais. Il déblait comme un fou, il me rate et je lui appuie sur la tête. Je me replace pour défendre et là, je vois un grand coup de poing arriver droit sur moi, boum, sur le nez, quoi, l'arbitre de touche à 5 mètres, comme si de rien n'était.
À l'ancienne.
Et ça, c'était la deuxième fois. C'est celui qui a le plus marqué mon nez.
Ouais.
Ouais, voilà.
Donc c'était pour l'anecdote, mais c'est vrai, ouais. Que quand on a pris des renseignements, on nous a dit que souvent, tu te faisais charrier effectivement sur cet aspect-là, un peu à l'image de Christophe Mony ou de Pierre Rabadan que Raph connaît,
ouais,
bien.
Ouais.
C'est ça, hein,
ouais,
moi j'ai quand même eu, enfin oui, c'est exactement ça. Moi j'ai eu quand même les deux épaules, vous connaissez un petit peu le bordel, le bras, une couille explosée, le genou. Et je pense que la pire des opérations, et pourtant la couille, j'avais une noix de coco à la place des rouleaux quand même, hein. Mais je pense que la pire des opérations, c'est vraiment le nez. Ça a été vraiment horrible. Donc j'avais la cloison là qui était complètement enfoncée, donc les mèches, le truc. J'ai même insulté ma mère quand elle était venue me visiter à l'hôpital de Beauvais. Donc c'est vraiment Donc je vois que t'as pas osé. Je vais peut-être
encore.
Peut-être un peu plus rude que toi. J'ai osé me faire opérer du nez. Bon, j'avais 14 piges. Hein. Mais ouais, pas encore. Mais faut faire gaffe. Ça se calcifie comme après, non?
Mais je le ferai peut-être en arrêtant pour mieux respirer, comme Tyndall à Angleterre, s'il s'est refait.
Ah ouais. La virgule Nike, quoi.
Mais on le reconnaît plus, quoi.
Juste avant de poursuivre sur le côté reconversion, Martin, je voulais rebondir. Tu parlais éventuellement d'une expérience à l'étranger, en Irlande, aux États-Unis. Est-ce que l'éventualité de poursuivre un an ou deux, on sait que la Ligue américaine se développe vachement, est-ce que ça pourrait être, vu que tu sembles très ouvert d'esprit, ça pourrait te tenter une expérience dans le championnat américain? On sait que les États-Unis vont avoir la Coupe du Monde en 2031, par exemple.
Ouais, aux États-Unis, pourquoi pas? Après, tout dépend des propositions. C'est l'offre et la demande. Mais pourquoi pas? Ça serait un truc qui m'intéresserait, qui me dérangerait pas. Après, c'est en fonction aussi de ma compagne. Il faut qu'elle travaille. Donc, où elle travaillera, je tenterai quelque chose.
Ouais. D'accord. Ah. Pour revenir justement sur ton double projet, c'est une question qu'on pose souvent aux joueurs qui ont passé la trentaine. Hein. Je n'allais pas dire en fin de carrière parce que t'as encore quelques années devant toi.
Pas loin,
mais. Est-ce que tu as le sentiment que les clubs jouent le jeu dans l'accompagnement du double projet, ou est-ce que finalement c'est de la poudre aux yeux? Parce qu'on a l'impression que des fois, les clubs essayent de s'acheter une bonne conduite et que dans la réalité, les clubs demandent surtout aux joueurs d'être performants sur le terrain.
De ce que j'ai vécu à Pau, ils jouent le jeu, quoi. En fait, c'est pas forcément les clubs qu'il faut blâmer, c'est les joueurs qui font pas assez l'effort de demander également des solutions. Parce que par exemple, la formation qu'on fait actuellement avec 4 joueurs de la section, c'est le club qui a mis en grande partie les choses au clair. Ceux qui ont contacté l'école, ouais, non, ils nous ont vraiment aidés, quoi. Ils ont tout organisé. Donc, on peut pas blâmer toujours les clubs. C'est aussi les joueurs qui doivent faire un minimum d'efforts, s'enseigner. On a des aides, on a Proval qui nous aide aussi. Donc, non. Je pense que ça peut toujours être mieux, mais il y a quand même des choses qui sont mises en place. Il suffit juste de demander, s'intéresser un petit peu.
Raph, toi, qui es souvent critique justement par rapport à ça, parce qu'à ton époque, malheureusement, cet accompagnement n'existait pas. C'est plutôt rassurant, non?
Oui. Puis on parle d'une époque que les moins de 20 ans connaissent pas, parce que c'était en 2005 jusqu'en 2008. Le rugby s'est professionnalisé, malheureusement un peu footballisé aussi, mais Mais ce double projet, il doit être, d'où l'importance encore de genre de témoignages qu'on a chaque semaine pour mettre en avant aussi cette importance du double projet. C'est les anciens qui aussi vont expliquer aux jeunes comment ça doit se passer et c'est à eux de prendre le lead sur leur avenir. Mais c'est ce qui est super dur aussi. C'est quand tu as 19, 20 ans, 21 ans et que tu es lancé dans le cursus professionnel rugbyistique, on te demande de penser aussi à l'après parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain ou ça peut s'arrêter dans 10, 15 ans. Donc, c'est hyper dur d'arriver à se projeter dans un milieu où tu es en CDD. Alors oui, tu es très bien payé. Oui, c'est un sport génial, mais c'est un sport à risque. Donc, c'est un peu schizophrénique, je trouve, de se dire à 20 ans, il faut déjà que je pense déjà au match d'après. Il faut que je pense à la saison d'après. Il faut que je pense en plus 10 ans plus tard. Donc, c'est difficile. Mais c'est clair que les choses ont bien évolué et que ça n'est pas que de la responsabilité des clubs que de penser à l'avenir des joueurs. C'est aux joueurs de prendre le lead sur leur vie. C'est un parcours atypique particulier, mais qui doit être assumé et qui doit être anticipé. Ouais. Toujours plus long, le monologue, non ?
Non, ça va.
C'est bien, arrêtez-moi, les gars.
Martin, justement, pour conclure, parce qu'on a déjà été long, est-ce que tu as le sentiment, alors c'est une question qui n'inspire pas forcément la modestie, mais est-ce que quelque part, tu te sens comme un modèle justement vis-à-vis de ces jeunes joueurs que tu chambres peut-être au petit-déj quand tu leur parles de politique ou de sujets de société ? Est-ce que tu as le sentiment que tu as un rôle un petit peu moteur pour les inciter à se prendre en main et anticiper cette après-carrière ?
Modèle, je ne pense pas, parce que si j'avais été à leur place, j'aurais fait comme eux, je pense. C'est la vie qui a fait mon parcours, quoi. C'est pas voulu. Donc je ne dirais pas modèle, mais je dirais peut-être les influencer un petit peu. Et les...
Moteur,
moteur. Les faire s'intéresser à autre chose, rien que par la discussion ou la rigolade, mais si c'est au moins ça ouvre un peu l'esprit. Quoi. Ouais.
C'est une belle chute pour conclure. Ah, c'est toi habituellement qui a le mot de la fin. Je te laisse conclure. J'imagine que le parcours de Martin, comme tu le dis si souvent, a quelque chose de très inspirant. Est-ce qu'il t'a inspiré, Martin ?
Ouais, parce qu'on n'était pas allé à Pau depuis 2 ans et on avait été voir ton président, Martin, ouais. Qui est une personne que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que Pau, on aimerait les voir franchir ce cap et on voit qu'avec des caractères comme le tien, avec des parcours comme le tien, avec aussi l'arrivée de Piccheroni, ça ne peut être que bénéfique pour la suite de construire, de prendre le temps et de prendre le temps de ce double projet, de pouvoir travailler sur l'avenir. Et puis voilà, ma dernière question, Martin, c'est de savoir, je sais qu'il y a une guéguerre, il y a une guéguerre entre le rugby à 13 et le rugby à 15, c'est de savoir comment tes oncles et ton père, et peut-être tes frères aussi si tu as des frères, comment ils ont pris le fait que tu partais à 15 et le fait que tu bouffes sur... Que tu sois rugbyman professionnel à 15.
Bon, après, ils sont assez réalistes. Le rugby à 13 en France, à part les Dragons catalans et le Théo, c'est compliqué de jouer. Donc, ouais. Ils se doutent bien que... Il y a plus d'opportunités à 15. Après, en termes de jeu, ils comprennent rien aux mêlées, ils comprennent rien aux touches. Ça les emmerde. Quoi. Donc, ils regardent que le jeu. Quoi. Mais je pense que dans quelques années, il n'y aura plus qu'un rugby. Je pense.
Ah oui ?
Ouais, je pense.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait dire
Parce
ça ?
Parce que je pense que la demande du spectacle va faire que les mêlées trop compliquées à arbitrer, les rugs trop compliqués à arbitrer, les gens ils comprennent rien. Et je pense que dans 10 ans, il va y avoir un mix des deux rugby, je pense. Ah pour ouais. Le spectacle.
Bon, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Alors, Martin, pour on reviendra sur. On garde le.
Je vais arrêter.
Non, mais c'est une réflexion intéressante sur laquelle on pourra revenir et débattre. Ouais. Messieurs, Poulard Affût, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir apporté cet éclairage, Martin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel opus. Et pour la section paloise, le rendez-vous, la reprise, c'est.
13 juillet.
13 juillet pour la section paloise avec reprise évidemment du top 14 le premier week-end de septembre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. À très vite. Au revoir.
Au revoir.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com code PROGRAM.